Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Cédric Fuentes. À la réalisation, Anna Olvec, prise de son Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième volet de notre série consacrée aux nouveaux visages du colonialisme. Hier, nous avons ouvert le débat sur le franc CFA, outil de stabilité pour certains, instrument de domination pour d'autres. Aujourd'hui, nous allons marcher dans les pas des entreprises françaises en Afrique. Pendant longtemps, les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines ont été marquées par le clientélisme, les passe-droits et les financements occultes, des pratiques qui prévalaient aux grandes heures de la France-Afrique. Aujourd'hui, à l'heure de la concurrence chinoise, les entreprises françaises ont-elles changé leur manière de faire des affaires? Profitent-elles encore des réseaux d'hier? Et peut-on vraiment parler d'une perte de vitesse de la France sur le continent africain? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des entreprises hexagonales à la conquête du marché africain en compagnie d'Antoine Glaser, journaliste et auteur de l'ouvrage Arrogant comme un Français en Afrique, publié chez Fayard, en compagnie également de Thomas Borel, porte-parole de l'association Survie qui milite contre la France-Afrique, association qui a publié France-Afrique, la famille recomposée aux éditions Sileps. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Puisqu'aujourd'hui il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale, qu'est-ce en son principe que la colonisation ? De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes.
Bonjour Antoine Glaser et Thomas Borel.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, écrit en 1950 et lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Il est toujours utile, Antoine Glaser, de rappeler l'importance des intérêts économiques dans l'histoire de la colonisation.
C'est primordial, je veux dire, c'est le substrat de la colonisation, c'est s'emparer des matières premières que vous n'avez pas chez vous. Et c'est vrai qu'on parle toujours de la colonisation, mais la période post-coloniale, ça s'est poursuivi en raison de la guerre froide, finalement, au moment des indépendances de 1960 à 1990, en particulier la France, s'est retrouvée dans une sorte de précaré de ses anciennes colonies, absolument en situation dominante, avec un système intégré, politique, militaire, financier, et où il y a finalement, au nom de la défense de l'Occident, contre l'Union soviétique, à partir de ce moment-là, même ses propres partenaires laissaient la France profiter de l'ensemble des matières premières stratégiques des pays, cooptaient les chefs d'État au pouvoir. Un certain nombre d'entre eux avaient déjà été députés ou ministres en France, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la France-Afrique, un système intégré d'État, et ça a perduré jusqu'à la chute du mur de Berlin.
On va revenir effectivement sur cette domination économique qui perdure après les indépendances, mais peut-être un premier mot, Thomas Borel, sur ce texte d'Aimé Césaire que l'on vient d'entendre.
Oui, sur le texte en lui-même, de toute manière, il faut lire, à mon avis, tout le discours sur le colonialisme de Césaire et en le replaçant dans ce contexte avec le courage de porter ces mots-là à cette époque-là et l'écho que ça a pu avoir. Mais par rapport à votre question sur le rôle des entreprises pendant la période coloniale, au-delà de l'intérêt évident qu'il y avait et qu'Antoine Glaser a rappelé, il faut aussi avoir en tête que les entreprises faisaient elles-mêmes partie du projet colonial, servaient le projet colonial, elles servaient un projet qui est pris dans une matrice idéologique d'impérialisme qui était de dominer, de peser au niveau mondial face à d'autres puissances impériales, notamment la Grande-Bretagne, mais pas uniquement. Et là-dessus, les entreprises à la fois pouvaient profiter de la colonisation et des matières premières, comme ça a été rappelé, mais servait aussi un enjeu de puissance et de rayonnement sur le reste de la planète. Et c'est en ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec aujourd'hui.
Alors avant d'aller plus loin, peut-être qu'il faut déjà passer par un effort de définition. Comment peut-on comprendre, expliquer ce terme de France-Afrique? Et comment est-ce qu'il est apparu, Antoine Glaser?
Alors il y a deux, on dit la France-Afrique. Certains disent que c'est le président Houphouët-Boigny qui l'a inventé. Mais ce qu'il faut comprendre, si on ne comprend pas la stratégie de la France, si on ne comprend pas la politique d'assimilation, ça veut dire il y a des gens qui ont vraiment cru d'ailleurs à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. La France a toujours aimé, ou les Français n'ont toujours aimé, en tout cas au niveau des pouvoirs en Afrique, que des Africains qui leur ressemblaient. Donc il y avait une politique intégrée. Il faut savoir quand même que la France a exporté, on parle de ces 14 anciennes colonies d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale, a exporté non seulement son code napoléonien, sa langue, mais aussi tout son système administratif, et en fait pensait garder, moi je me souviens d'un chef d'entreprise ou d'un type de pouvoir qui me disait toujours, on pensait avoir découvert en Afrique la roue, et comme on le verra, quand la France est fait virer de l'Algérie, en particulier pour elle n'avait plus accès au pétrole et au gaz algérien, elle a été trouvée dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire des pays d'Afrique centrale, une des matières premières stratégiques comme le pétrole et l'uranium. Donc je veux dire, c'est la France-Afrique pour moi, c'est une France-Afrique d'État, d'abord du temps du général de Gaulle. Il faut savoir que ce sont les services secrets français qui ont participé à la libération finalement de l'Afrique, et la France a utilisé et a instrumentalisé l'Afrique pour garder une puissance non seulement matière première, mais aussi évidemment diplomatique et politique dans le monde.
Mais alors justement, on a tendance à associer effectivement la France-Afrique à la période qui correspond à la présidence du général de Gaulle. Mais pour vous, Thomas Borel, on peut retracer les origines de la France-Afrique à la fin du 19e siècle en réalité?
Alors, la France-Afrique, on peut effectivement voir où est-ce qu'elle puise ses racines, mais comme l'a dit Antoine, le terme France-Afrique a été utilisé par Félix Houphouët-Boigny au milieu des années 50 et à l'époque pour désigner ce qui devait justement être dans un projet, dans son idée plutôt positive de quelque chose, cette communauté de destin. Et effectivement, on est à l'époque où se noue la France-Afrique, qu'il faudrait pas résumer à l'époque de Gaulle et qu'il faudrait pas résumer au Foccartisme, qui est une des étapes de la France-Afrique, mais loin d'être la seule.
Pour du nous, nom de Jacques Foccart.
Jacques Foccart, qui était l'éminence africaine, on va dire, du général de Gaulle et qui présidait au destin d'un certain nombre de chefs d'État africains en maniant directement la politique africaine de la France. Mais là-dessus, la France-Afrique, le terme a été usé une première fois au milieu des années 50. Et puis, en fait, c'est l'association Survie, sous la plume de François-Xavier Verschave, qui l'a réutilisé il y a de ça à peu près une vingtaine d'années dans un ouvrage qui s'appelait « France-Afrique, le plus long scandale de la République ». Pour justement désigner l'ensemble des mécanismes à la fois officiels mais aussi officieux qui permettent à la France de conserver une forme de d'ingérence, d'influence dans la politique des États africains. Et là-dessus, effectivement, on peut situer l'émergence de la France-Afrique dans les années 50, avant même le retour du général de Gaulle et l'arrivée de Jacques Foccart aux affaires africaines, puisque à ce moment-là, pendant la période coloniale, il y a le souci, face à la poussée indépendantiste dans les différents pays, de voir comment adapter finalement le système pour ne pas tout perdre. Il y a un peu différents courants qui s'affrontent.
Et c'est un moment où l'État revient en force, là où justement il avait délégué la gestion des colonies aux entreprises privées au début du XXe siècle, Thomas Borel.
Alors, l'État revient en force avant même cette période, à partir des années 30, dans les années 40, il y a un investissement plus massif que pendant le développement colonial en lui-même. Là-dessus, à la fois pour pour créer un certain nombre d'infrastructures et poser les bases finalement de ce qui sera la politique de développement à partir des indépendances et des années 60, et puis pour anticiper effectivement à partir des années 50 une évolution du système et créer des interdépendances stratégiques qui vont permettre de conserver l'accès aux matières premières stratégiques, notamment au niveau uranium et autres matières radioactives, mais plutôt d'abord dans un objectif militaire et ensuite dans un objectif civil, et puis évidemment les hydrocarbures. Donc là-dessus, il y a cette interdépendance qui devient le moment où se noue la France-Afrique, on pourrait dire, dans les années 50.
Et donc c'est à ce moment-là, Antoine Glaser, que les entreprises françaises vont prospérer en Afrique à l'abri des contraintes du libre-marché ?
Absolument, je veux dire, c'est hallucinant. Je veux dire, bon, moi évidemment, qui ai les cheveux gris, quand on a connu ce que c'était, par exemple, Abidjan, qui était vraiment le village gaulois, qui était là, Abidjan en Côte d'Ivoire, le village gaulois de la France-Afrique, avec l'ancien président Houphouët-Boigny, à un moment donné, il y avait 50 000 Français présents, il y avait des assistants techniques partout, ce qu'on appelle le ministère du plan, les Ivoiriens plaisantaient en disant que c'était le ministère du blanc, ça veut dire qu'il y a une prise en main, c'est-à-dire il y avait une substitution déjà, une sorte de coopération de substitution, mais il y avait une présence extrêmement importante pour l'ensemble, bien sûr, des matières premières. Les matières premières stratégiques, ça reste un fil rouge, parce que quand, par exemple, le général de Gaulle, c'est ce que je vais raconter, c'était dans les mémoires de Jacques Foccart, dit « j'en ai marre de voir vos nègres matin, midi et soir à ma table », Jacques Foccart dit « ah, mais mon général, vous savez, il faut préserver nos intérêts, l'uranium, du Gabon, ce qui intéresse les anglo-saxons, les américains, c'est important ». Donc, il y avait vraiment une stratégie, encore une fois. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est quand même que c'est l'Afrique qui a participé à la libération de la France. Ce sont les réseaux secrets de Jacques Foccart. Et donc, on est resté aussi, je ne sais pas si on n'aura pas le temps de développer,
mais
on est resté dans, au cœur du secret de la France en Afrique. C'est quand même les réseaux de renseignement avec le lien avec le pétrole et l'uranium. Ça veut dire les militaires. Le secteur N de services secrets français, ça a toujours été l'Afrique, le seul, une des seules sections vraiment aux mains des militaires. Donc il y a derrière une culture, derrière la francophonie, derrière la France-Afrique classique de l'État, il y a une vraie stratégie qui permet à la France d'avoir gagné un poste au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle le doit parce que c'est une puissance nucléaire, mais aussi à l'Afrique parce qu'elle reste une puissance africaine.
Alors justement, c'est à ce moment-là qu'il y a des entreprises qui vont profiter de la libéralisation de l'économie dans les années 80, qui ouvre la voie aux privatisations, au point que certains chercheurs ont même pu parler d'une recolonisation par privatisation, Thomas Borel.
Oui, dans les années 80, il y a la crise de la dette qui étrangle un certain nombre de ces États. C'est la fin d'une forme d'âge d'or d'économie basée uniquement sur certaines matières premières. Il y a le cours des matières premières qui diminue et la dette qui les étrangle. Et effectivement, il y a les fameux programmes d'ajustement structurel, les PASS, qui ressemblent fort à ce qui s'est fait récemment en Grèce, avec un certain nombre de privatisations imposées comme condition à une aide internationale de la part des institutions de Bretton Woods. Là-dessus, effectivement, les entreprises françaises qui sont positionnées dans ces pays-là de manière historique, d'abord pendant la période coloniale, puis au moment des indépendances qui sont restées sur place et qui ont des positions de quasi-monopole, sont forcément bien placées pour se positionner sur les privatisations. Et il y a là un certain nombre d'empires néocoloniaux qui se renforcent considérablement. Mais vous avez aussi des nouveaux venus je pense au groupe Bolloré qui était arrivé finalement dans des affaires économiques en Afrique à partir de la fin des années 80, et notamment au début des années 90 avec la prise en main d'une compagnie d'armateurs maritimes qui vont sauter sur cette occasion pour mettre la main sur certaines infrastructures publiques qui sont privatisées.
Alors on va revenir sur le groupe Bolloré, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête un instant sur l'exemple de l'entreprise Castel, qui a été créée en 1949 sous le nom de Castel Frères, qui est aujourd'hui numéro 1 des 20 français. Je vous propose d'écouter d'abord Pierre Castel, le président directeur général du groupe, dans une vidéo de l'Élysée réalisée en 2001.
Le groupe Castel est revenu, mes premières implantations en Angola ont été en 68 et nous sommes revenus en 93 Et à ce moment-là, j'ai rencontré le président pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et le président m'a dit, actuellement, nous voulons remonter l'Angola. Tout est à faire. Je suis intéressé par des gens qui veulent partir. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti à ce moment-là, à bloc. Le plus dur, ça a été de faire des cadres, parce que dans un pays, il ne suffit pas d'amener des expatriés, ça ne sert à rien et ça coûte trop cher. Ce que l'on a essayé de faire, c'est de faire des cadres. Et naturellement, ça, c'est beaucoup de travail, parce que, surtout dans le métier de brassicole, il y a des parties difficiles et quand même, ils sont très délicates. Aujourd'hui, tout le brassage, les automates, tout fonctionne avec des cadres que nous avons créés ici en Angola.
Voilà Pierre Castel qui a créé un véritable empire en France et dont la parole est assez rare dans les médias. Une réussite qui doit beaucoup au réseau de la France-Afrique, Antoine Glaser.
Oui, enfin, la force que, si on voit sur une longue période, hein, je veux dire, la France contrôlait les entreprises françaises, les marchés d'une façon, je dirais, politique. Ça veut dire, à partir du moment où il n'y a pas de concurrence, si vous étiez entreprise française dans le précaré et que vous aviez un problème, il suffisait de demander à l'ambassadeur de France d'appeler le président Fouette-Boigny, Omar Bongo, ou tous les présidents de la région, très souvent cooptés par la France au pouvoir, pour avoir les contrats. Donc, la France contrôlait les marchés à 50-60%. Maintenant, on est à 5% ou à 11% dans des pays comme la Côte d'Ivoire, à peu près au niveau des Chinois. Donc, quelqu'un comme Pierre Castel, la force de Pierre Castel ou de ce qu'on appelle la BBC, Bouygues, Bolloré et Castel, leur force, c'est leur relation qu'ils ont aussi avec les pouvoirs africains. Quand vous avez des relations avec les pouvoirs africains, non seulement vous avez le soutien du pouvoir français, mais aussi, c'est vrai que d'année en année, ce sont des entreprises patrimoniales. Ça veut dire des entreprises avec les gens, leur propre argent. Et à ce moment-là, ils ont la puissance parce qu'il y a évidemment, c'est leur propre boîte. Donc, vous avez les cadres. Je veux dire, vous maîtrisez complètement le contrôle de l'appareil. Alors, autant en France que sur le continent africain. Et c'est pas un hasard si ils ont continué à prospérer, y compris maintenant à la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide.
En l'occurrence, la légende familiale des Castel, rapportée par le Monde diplomatique, veut que Pierre Castel ait rencontré Omar Bongo, futur président du Gabon et pilier de la France-Afrique dans un bar de Libreville. On voit en tout cas que ces réseaux ont beaucoup joué dans la réussite, dans le succès économique du groupe Castel, Thomas Borel.
Oui, effectivement, c'est Pierre Castel qui racontait qu'il a été abordé par celui qui ne s'appelait pas encore Omar Bongo, puisqu'il a changé de prénom ensuite, mais Omar Bongo, quand il n'était pas encore président, peu de temps avant, pour lui présenter le président du Gabon, Léon Mba, qui voulait qu'il y ait une brasserie qui s'installe dans le pays en 1967. Et ça a été le point de départ. Et puis ensuite, Castel a mis la main, finalement, au début des années 90, sur le groupe BGI, Brasserie et Glacière Internationale, qui est aussi le descendant d'une de ces entreprises coloniales, Brasserie et Glacière d'Indochine.
Et c'est comme ça qu'il va mettre en place un véritable monopole sucrier.
Et c'est là qu'il a commencé à se développer dans un certain nombre effectivement de pays. Et puis, il y a eu des privatisations, des rachats. Et effectivement, avec les connaissances et les entrées dans les différents palais africains qu'il a su se ménager, lui-même disait en 2015, je crois, ou 2014, il disait dans une interview, je les connais tous, ça aide. Il y a cette dimension qui est évidente. Il n'hésite pas à intervenir ou à demander à ses contacts sur place d'intervenir directement. Et c'est encore le cas très récemment, puisque en 2015, au Burkina Faso, il s'est rendu sur place pour lui-même casser une grève qu'il y avait dans les brasseries du Burkina Faso.
Antoine Glaser.
Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir justement, contrairement à d'autres entreprises françaises, je disais tout à l'heure, qui ont besoin d'avoir une sorte de parapluie politique ou qui ne travaillent traditionnellement que dans le précaré des anciennes colonies françaises. Pierre Castel était un des rares, au moment où il y avait la guerre en Angola, il y avait l'Angola Gate, il y avait très mauvaises relations entre la France et l'Angola, mais lui, il y avait des hommes d'affaires qui étaient poursuivis en France, le régime angolais avait complètement coupé les relations avec la France, mais lui, Pierre Castel, a continué à travailler avec l'Angola, compte tenu de ses relations avec José Eduardo dos Santos, le président angolais. Maintenant, il y a Lorenzo, c'est un nouveau président, mais c'est sa capacité, sa force d'avoir ce lien direct, accompagné. C'est vrai que moi, je l'ai connu, il a fait tous les voyages présidentiels. Il y avait toujours Pierre Castel qui était dans la suite, mais il était toujours un petit peu à part, toujours discret, mais il avait toujours des rendez-vous avec des ministres africains, des pouvoirs africains. Il se mêlait pas vraiment aux grandes réunions, aux grands débats. Mais encore une fois, c'est cette espèce de mouvement France-Afrique, Africa-France qui fait que cet capitalisme patrimonial perdure, alors que l'Afrique a mondialisé, a explosé complètement les boîtes françaises, mais eux continuent, compte tenu de leurs relations anciennes, avec les pouvoirs africains.
Alors, autre groupe que vous avez cité, Thomas Borrell, qui a su tirer parti des privatisations pour constituer un empire en Afrique, c'est le groupe Bolloré. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, Thomas Borrell, comment Vincent Bolloré a commencé à faire des affaires sur le continent? Pourquoi est-ce qu'il a jeté en particulier son dévolu sur les ports africains?
Alors, en fait, il a pris une première participation dans un empire colonial qui était plutôt sur les plantations, l'empire Rivo, une petite participation vers 1987, mais effectivement en 91 il met la main sur l'armateur Delmas Viegeux, enfin il rachète l'activité donc d'armateur, et là il commence à avoir une activité de fret maritime qui va faire qu'il va être bien positionné au moment des privatisations à partir des années 90 pour se positionner sur les concessions de terminaux portuaires.
À une époque où les ports sont encore en très mauvais état, très peu équipés.
Ou en tout cas, où ils sont, pour le coup, où ce sont encore des infrastructures publiques et que le FMI, la Banque mondiale, demande à ces états-là, comme conditionnalité, de privatiser. Et donc, où le groupe Bolloré se positionne. Et aujourd'hui, c'est quand même 17 ports dans une quinzaine de pays. C'est 16 terminaux à conteneurs. Donc, il est extrêmement présent. Il s'est débarrassé, d'ailleurs, de son activité de fret maritime. Mais il s'est extrêmement développé là-dessus, et puis aussi sur les privatisations du rail, puisque au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il a aussi racheté il s'est positionné sur les concessions ferroviaires. Donc ce sont des activités importantes pour lui, et puis il a gardé aussi des participations très clairement dans les activités de plantation. En 2011, juste un chiffre pour le groupe Bolloré, on avait, malheureusement on n'a pas les chiffres récemment, mais on savait que c'était 25% de son chiffre d'affaires, l'Afrique, mais par contre c'était 80% de ses bénéfices. Ça donne une idée de la rentabilité encore à cette époque de ce type d'activité.
Alors je vais vous donner la parole, Antoine Glaser, mais d'abord il faut dire que Vincent Bolloré est aujourd'hui plongé dans la tourmente judiciaire. L'homme d'affaires a été mis en examen par la justice française en avril dernier. Il est soupçonné d'avoir fait profiter notamment le président guinéen Alpha Condé des conseils de sa filiale Havas en échange de la concession du port de Conakry, et cela au détriment de l'entreprise Nekotrans. Écoutons les explications du journaliste Jean-Pierre Canet, l'auteur de Vincent Tout-Puissant.
Nekotrans, c'était la société française qui avait la concession, qui avait obtenu la concession. Et Bolloré, Briguet, avait la volonté de récupérer cette concession. C'est justement l'objet de l'enquête aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que Alpha Condé se présente aux élections, les premières élections en 2010, libres dans ce pays. Et c'est là que Havas rentre en jeu. Havas fait la communication politique, la campagne d'Alpha Condé. A priori, des discussions ont lieu entre Alpha Condé et son ami Vincent Bolloré. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est lui. Et Alpha Condé, une fois au pouvoir, va sortir Nekotrans de cette concession et va à la place l'octroyer à Vincent Bolloré. Et Dominique Lafont, qui était à l'époque le directeur général de Bolloré Logistics, nous dira à nous, dans notre ouvrage, il nous dira « Sur Conakry, j'ai fait comprendre à Vincent que je n'approuvais pas la méthode et que j'en appréhendais les conséquences en termes d'image. On s'est un peu comporté comme des cow-boys. »
Voilà un extrait d'une interview diffusée sur France Inter en avril dernier. Alors quel regard portez-vous sur ce feuilleton judiciaire, Antoine Glaser?
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit bien que comment il a remonté. C'est-à-dire il est devenu le passage obligé dans le hard, ça veut dire entre, il a pris d'abord les bateaux, en plus il a fait la manutention, il est remonté et il avait ses matières premières, donc il est passage obligé dans la manutention, il était passé, maintenant il abandonne les bateaux, mais il est toujours dans tout ce qui est port sec et autres. Et maintenant il passe dans une sorte de soft power, de diplomatie, d'influence avec Havas, avec Canal+. Quand Canal+ perdait 300 000 abonnés en France, ils ont été récupérés en Afrique. Ils sont 1,5 million d'abonnés. Donc, il passe à un nouveau. Moi, je n'exclus pas qu'à un moment donné, ils vendent D'ailleurs, tout ce qui lui crée des problèmes judiciaires, il était dans le bois, il a abandonné le bois au départ, il était dans les cigarettes, il a abandonné aussi le tabac. Dès quelque chose qui commence à ternir trop son image, il a tendance à vendre. Donc c'est pas impossible qu'il reste vraiment dans le soft power et autres. Et ce qui est vrai, c'est compte tenu de ses relations très anciennes avec Alpha Condé, le président de la Guinée, ils ont viré Neco Trans et lui a pris le port qui voulait depuis très longtemps toute la manutention. Mais en même temps, c'est vrai que, avec Havas, vous jouez sur plusieurs tableaux. Vous faites la com des chefs d'État et autres. Donc c'est vrai que, encore une fois, je crois, maintenant, l'argent, ça se fait avec la com en Afrique, avec la communication, avec tous ces réseaux, avec Havas, avec les télécoms. Et on voit qu'il est en tendance, c'est d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays comme le Bénin, où maintenant, le président du Bénin, il préfère les Chinois à Bolloré. Donc, il va passer à un autre niveau qui est vraiment le soft power.
Justement, on se pose vraiment la question de l'image. Est-ce que l'image du groupe Bolloré est écornée par ses affaires judiciaires, Thomas Borrell? Et plus largement, est-ce qu'il faut voir là-dedans une sorte de remise en cause de la puissance du groupe Bolloré en Afrique?
Je ne pense pas qu'il faille voir pour l'instant à ce stade une remise en cause. Son image est certes écornée, il est soucieux de son image. Ça, on le voit par la multiplication des poursuites judiciaires qu'il intente contre des journalistes et des médias. Et d'ailleurs, Monsieur Canet, dont vous avez passé l'extrait sonore, est lui-même l'objet de différentes poursuites pour son ouvrage avec son collègue. Là-dessus, effectivement, le groupe est très soucieux de ça. Pour le moment, Vincent Bolloré est présumé innocent. On va le rappeler ici. Pour pas donner le loisir à son avocat d'intenter de nouvelles poursuites, mais le groupe Bolloré, enfin le groupe français Bolloré SA, la société a également été mise en examen en décembre dernier. Cette affaire va continuer. Après, c'est pas la première affaire qui vient écorner l'image d'un grand groupe en France, et il faut plutôt se poser la question, quand il y a des scandales comme ça, de l'évolution qui s'ensuit, et il va falloir être attentif dans les prochaines années à certaines cessions d'actifs. Si on regarde ce qui s'est passé après l'affaire Elf, qui a été reprise par Total et finalement digérée par Total pour qu'on oublie un peu le scandale de l'affaire Elf. Si on regarde au niveau d'Areva, qui a changé de nom récemment alors qu'elle est trempée dans le scandale Uramine, où là aussi il y a des mises en examen de grands dirigeants français pour les mêmes chefs d'accusation. Areva a changé de nom et est devenue Orano. Donc il faudra voir quelle sera la stratégie du groupe Bolloré là-dessus. Mais pour revenir sur la question finalement de l'influence et des réseaux d'influence qu'il peut utiliser, c'est une marque de fabrique du groupe Bolloré, ça n'est pas nouveau. Il faut voir qui il recrute, et il y a le cas évidemment de Ange Mancini, ancien des services secrets. Il y a aussi Michel Roussin qui a été le monsieur Afrique de Jacques Chirac à la mairie de Paris, qui a été ministre de la coopération et qui pendant un temps a été le directeur de Bolloré Afrique, en quelque sorte du groupe de l'ensemble du groupe en Afrique. Donc,
on a quand même le sentiment, Thomas Borrell, pardon de vous couper, mais que le groupe Bolloré Africa Logistique multiplie les revers juridiques et les déconvenus. Le groupe Bolloré, dont la filiale Calmrail a été reconnue coupable d'homicide involontaire par la justice camerounaise en septembre, c'est un verdict qui est intervenu dans le procès qui a suivi donc l'accident d'un train de Calmrail qui avait fait 79 morts le 21 octobre 2016 au Cameroun. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on assiste non pas à une remise en cause, mais peut-être à certaines déconvenues qui expliquent ou qui en tout cas nous montrent qu'il y a un certain recul en tout cas de la puissance de Bolloré en Afrique?
Des déconvenues, oui, un recul, pas nécessairement. Il faudra juger sur le temps long. La catastrophe des ECA à laquelle vous faites allusion, effectivement, c'est un bilan officiel de 79 morts, il y en a sans doute plus, 600 blessés. C'est une condamnation dont le groupe Bolloré a fait appel, qui est intervenu au Cameroun. C'est assez courageux quand on connaît l'état de la justice camerounaise, mais là, les juges pouvaient difficilement faire autrement, tellement ça semblait accablant vis-à-vis du groupe Camrail. Mais ceux qui ont pris les plus grosses condamnations, c'est le chauffeur du train et le responsable de la sécurité. Il n'y a aucune remise en cause là-dessus, évidemment, du groupe et des actionnaires français. Le dirigeant de Camrail au Cameroun, qui était un Français, a pris 3 mois de prison avec sursis, ou 6 mois de prison avec sursis. Donc là-dessus, il faut... On a effectivement des remises en cause ponctuelles, mais la plus grosse remise en cause, effectivement, elle est le fait de la justice en France. Et l'affaire dont on parle sur Nécotrans, c'est la justice française, et ça, c'est extrêmement important.
Antoine Gazer.
Oui, moi, je vais enfoncer une porte ouverte sur l'histoire des réseaux sociaux. Mais c'est évident que, pour moi, quand même, on est dans une nouvelle phase. L'Afrique se mondialise, même les chefs d'État africains, ils n'ont pas, vis-à-vis de Vincent Bolloré, vis-à-vis du pouvoir en France, vis-à-vis de la France, ils ont moins en moins l'esprit Tour Eiffel. Et pour eux, à partir du moment où ils ont les Chinois, on parle des Chinois, mais il y a les Indiens, les Turcs, il y a le monde entier.
Ils ont tout à gagner, à jouer
absolument.
De cette concurrence.
Et donc, de plus en plus, on voit bien que pour son image, entre les réseaux sociaux, le fait que les chefs d'État africains vont peut-être de moins en moins défendre forcément les Français, Vincent Bolloré, les entreprises françaises. Donc on voit, moi j'entends de plus en plus les Africains qui disent, bon ben s'ils veulent pas venir, qui restent chez eux, on a de quoi faire. J'ai même des gens comme Alassane Ouattara, j'ai entendu dans des forums franco-africains dire, écoutez les gars, on vous aime bien, mais maintenant il y a des appels d'offres, il a confié. Alors, faut pas se leurrer. Quand vous entendez qu'il y a des grandes entreprises françaises qui obtiennent des grands contrats pour de trains, des ponts et autres, si vous grattez un peu, si vous vous enquêtez un peu, vous verrez que c'est très souvent le contribuable français qui paye à travers des annulations de dettes de ces États ou à travers des prêts coffacés de l'Agence française de développement. Ça veut dire pour pouvoir la France qui défend ses intérêts stratégiques et ses entreprises en Afrique, très souvent, c'est elle qui paye. Faut pas se leurrer. Donc, je pense que pour revenir à Bolloré comme sous ces grands groupes, ils sont plus du tout, entre parenthèses, en situation de monopole, de quasi-monopole, c'est pas dire monopole, de quasi-monopole, comme à une période.
Donc vous parlez de la fin d'un règne.
Moi, je pense que c'est la fin d'un règne. Moi, j'ai vraiment une théorie, enfin, vraiment, c'est ma théorie, ça veut dire, il y a eu vraiment, on a vu en France la chute du mur de Berlin, tout le monde a vu la réunification de l'Allemagne, mais personne n'a vu et ne voit encore la mondialisation de l'Afrique. En France, on est recroquevillé dans nos trucs franco-français, mais on voit pas ce qu'est l'Afrique mondialisée. Moi, enfin, vous allez à Abidjan, même à l'hôtel Accor qui est français, vous entendez parler, il y a des Espagnols, les Allemands sont en train de doubler la France sur l'ensemble des mêmes, sur son précaré, il y a des Sud-Coréens, il y a le monde entier.
On va reparler de la concurrence chinoise, allemande, en l'occurrence, Thomas Borel.
Oui, un mot par rapport effectivement à cette tendance et depuis 10 ans à ce qui peut se passer, mais avec Antoine Glaser a parlé du fait que les entreprises gagnent des gros contrats finalement financés par de l'argent public, mais ça n'a absolument rien de nouveau. C'était exactement le cas du temps avec le Fonds européen de développement dans les années 60, 70. Ça a été le cas avec l'aide au développement française qui a de tout temps financé de manière indirecte les contrats des entreprises françaises. Aujourd'hui, effectivement, avec les contrats de désendettement, développement, les C2D, où la Côte d'Ivoire est un cas d'école, mais on pourrait parler aussi du Cameroun, du pont sur le Wouri qui a été financé. La France, en fait, cherche à influencer les marchés directement là-dessus. Mais par contre, quand on voit que des entreprises peuvent être mises en difficulté ou que des chefs d'État africains peuvent essayer de faire jouer une concurrence, on voit encore les politiques français monter au créneau, parce que ce discours, on l'entendait il y a 10 ans, mais Nicolas Sarkozy n'avait pas hésité à dire à Forni Asimbe, selon le Canard enchaîné au moment du sommet Europe-Afrique fin 2007, que Bolloré était sur les rangs, et quand on est un ami de la France, on pense aux entreprises françaises, et il parlait du port de Lomé. On sait en 2015 que à l'occasion de la visite de François Hollande au Cameroun, ça a permis à Bolloré de se remettre en selle sur le port de Kribi, puisqu'il était passé à côté de l'appel d'offres. Et par contre, en ce moment, on voit également au Cameroun, les autorités jouer de ça et dire que, ah, peut-être Bolloré ne va pas être sélectionné pour la concession, le renouvellement de la concession du port de Douala, à un moment où les autorités camerounaises peuvent avoir besoin de mettre la pression sur les autorités françaises puisqu'elles sont empêtrées dans une guerre civile et qu'elles cherchent à obtenir le soutien de la France.
Donc ce que vous dites, c'est que ces réseaux sont encore très puissants.
C'est encore à l'heure. Là-dessus, par rapport à la notion de fin d'un règne, je pense plutôt qu'on est dans une période d'adaptation continue. Et pour revenir au début de mon propos en début d'émission, tout comme la France-Afrique dans les années 50 était l'adaptation d'une relation pour ne pas tout perdre, on assiste aujourd'hui encore à une forme de mutation. On est dedans, donc on ne nie pas évidemment l'arrivée d'autres acteurs économiques sur ces marchés-là, mais c'est pas pour autant une perte, notamment en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises françaises.
Alors on va revenir là-dessus, mais ce qu'on constate tout de même, c'est peut-être de plus en plus de grogne de la part de la société civile contre un certain nombre de groupes, alors évidemment pas que des groupes français, mais on peut citer notamment le cas du groupe Orange et ses 126 millions de clients sur le continent africain. L'opérateur français a fait l'objet de campagnes de boycott dans plusieurs pays du continent. Est-ce qu'il faut y voir début de contestation, Thomas Borrell, même si ce n'est pas au point de menacer le règne d'Orange en Afrique?
On ne peut pas y voir un début de contestation. La contestation, de tout temps, elle a existé. Elle est peut-être plus visible aujourd'hui. Je ne parle pas de celle d'Orange, mais la contestation contre des intérêts français ou contre la présence militaire française. Il y a eu...
une contestation qui s'organise, voilà, au moins.
Là-dessus, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, elle est plus visible. Et il se trouve qu'Orange, en ce moment, peut être ciblé alors sur des pratiques qui ont lié, en fait, à Orange Monnaie et au crédit, au fait de charger son téléphone et que le crédit diminue trop vite. En tout cas, au Cameroun, le hashtag... Orange is the new mafia, c'est pour dénoncer cela. Par contre, Orange continue de se positionner comme un acteur incontournable sur le réseau de la téléphonie, sur le réseau du paiement par moyen de téléphonie mobile. Et on voit bien que ce type de contestation, pour le moment, ternissent assez peu, il faudra voir dans le temps long, ternissent assez peu son image.
Ça n'empêche pas Orange de faire des bénéfices colossaux.
Ça n'empêche pas Orange de faire des bénéfices et ça n'empêche pas Orange non plus d'être au service de ces régimes-là quand ils demandent de couper Internet pour justement faire taire la contestation, comme c'est le cas au moment des élections. Orange, comme les autres opérateurs, coupe Internet et coupe les réseaux sociaux quand ces régimes demandent de museler finalement les réseaux sociaux.
On va voir en tout cas comment ces entreprises françaises essayent justement de faire face à ces nouvelles concurrences, à commencer par celle de la Chine. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Groupe de musique sénégalais, Orchestra Baobab, Antoine Glaser et Thomas Borrell sont avec nous pour parler des entreprises françaises en Afrique, des entreprises aujourd'hui défiées dans leur précaré, notamment par la Chine. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Antoine Glaser, comment s'est construite la présence chinoise sur le continent africain?
Alors la présence chinoise est vraiment ancienne. En Afrique, on construisait déjà des usines d'allumettes au Mali ou le Tanzanie, des trains dans la corne de l'Afrique. Mais c'est vrai que maintenant, ils sont totalement, au moment où, à la fin de, justement de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, tout le monde, les Occidentaux et en particulier la France, étaient endormis dans son précaré. La présence de la Chine qui est arrivée d'abord dans les matières premières stratégiques au moment où la France, avec le Bureau de Recherche Géologique et Minière, avait totalement abandonné aussi l'ensemble de ses mines, ou vivait sur ce qu'elle avait déjà sur ses mines d'uranium du Niger ou du Gabon. Et on voit bien que la Chine a réveillé, ça veut dire, moi j'ai toujours qu'il y a une nouvelle guerre froide, multipolaire en Afrique, avec des intérêts où il y a évidemment le monde entier, et la Chine a réveillé les intérêts des entreprises. C'est vrai que la France bénéficie, les entreprises françaises, souvent en sous-traitance même, off, ils vous disent toujours, finalement, nous, les Chinois nous concurrencent, mais en même temps, voilà, ils mettent tellement d'argent, Forum franco-africain, il parle des 60 milliards de dollars, 140 milliards de dollars. C'est le premier partenaire économique. Mmh. Et maintenant, ils sont rentrés dans les matières premières stratégiques au moment où finalement les pays occidentaux annulaient la dette des pays africains. Donc c'est très fort. Ils arrivent, les pays africains se réendettent. Et en même temps, dans un premier temps, ils prennent les matières premières stratégiques en échange finalement de l'argent. Et maintenant, ils sont en train il y a des grandes usines textiles en Éthiopie. Ils vont utiliser l'Afrique pour pénétrer en Europe. Et on parle de la Chine, mais encore une fois, on oublie l'Inde, la Turquie. Il y a vraiment le monde entier et les propres partenaires européens de la France, comme l'Allemagne ou l'Espagne, maintenant passent devant la France.
Alors, est-ce que cette montée en puissance des entreprises chinoises en Afrique s'est faite au détriment des acteurs économiques français? C'est vraiment la question qu'on se pose.
Moi, c'est vraiment la petite divergence que j'ai avec Thomas Borrell et avec Survie. Ça veut dire, évidemment, moi qui suis plus grand, qui ai connu ce que c'était que la présence française en Afrique. Les types, ils contrôlaient les marchés à 50-60%. Il a raison, c'est vrai qu'il y a des entreprises françaises qui sont en train encore de s'activer politiquement pour garder des positions. Mais très franchement, par rapport à ce que c'était, on est passé, moi ce sont les chiffres qui parlent, on est passé de 50% à 5%.
Oui, mais aujourd'hui la Chine et la France n'investissent pas nécessairement dans les mêmes secteurs en Afrique. Je voudrais qu'on entende Thomas Borrell.
Non, mais évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on est exactement dans la même situation qu'il y a 40 ans, et on ne va pas faire un concours de cheveux blancs, parce qu'à Survie, on a toujours Odile Bihidi, la veuve de Mongo Betty, qui est en ce moment même au Cameroun à plus de 80 ans. Mais elle serait là, elle vous dirait comme moi que les entreprises françaises continuent de se positionner sur des secteurs stratégiques et ne sont pas nécessairement et pas systématiquement en tout cas dérangées par la présence chinoise. Et ça, c'est pas uniquement Thomas Borrell ou Survie qui le dit, c'est dans la bouche des représentants même des investisseurs français en Afrique. Il y avait Alexandre Villegrain en 2013, donc qui est président du CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique, de son ancien nom d'ailleurs, le Conseil des investisseurs en Afrique noire, mais qui disait que l'important, c'est que le chiffre d'affaires progresse. Et effectivement, on a une diminution des parts de marché, mais avec un gâteau qui est de plus en plus gros et avec des complémentarités. On parlait tout à l'heure de Bolloré qui s'est repositionné grâce à une intervention assez directe de François Hollande ou de son cabinet en 2015 sur le port de Kribi, c'est en alliance avec des intérêts chinois. On voit aussi que là où des entreprises minières se développent, ça ouvre des marchés pour des opérateurs ou des sous-traitants comme Sodexo, etc. Donc là-dessus, il y a les chiffres effectivement parlent. Là-dessus, on peut être d'accord avec Antoine Glaser, mais sur la diminution des parts de marché, encore que
donc
régulièrement...
recul des parts de marché, mais des échanges commerciaux et des IDE entre la France et les États africains qui augmentent.
Non, mais ce qui est très important à comprendre, encore une fois, c'est quand on parlait de quasi-monopole, de position dominante, on n'est plus dans ce cas de figure. Mais puisque Thomas Borrell parle du Conseil français des investisseurs en Afrique, ils ont fait, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, ils ont fait un sondage auprès de leaders d'opinion africains sur comment leaders d'opinion africains voient les pays étrangers chez eux. Qui arrive en premier en disant ce sont vraiment des pays qui vont nous aider? Il y a la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne. La France arrive en 7e position. Donc, il y a quand même bien quelque chose qui bouge. Eux, ils sont effondrés de voir ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Du coup, ils se disent, on est en train de perdre nos positions. On va utiliser les diasporas africaines. Ils ont fait faire une étude sur les diasporas africaines pour utiliser ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que 125 000 Français en Afrique. Il n'y a plus que 125 000. Principale communauté, c'est 25 000 Français au Sénégal et des binationaux. Par contre, évidemment, vous avez 1 million ou autre de Français d'Afrique ou des Français d'origine africaine. Et du coup, le business français, c'est ça la vraie nouvelle.
Mais est-ce
c'est
que vous
ça,
êtes
la
tout de même d'accord, Antoine Gazer, hein, pour dire que les entreprises françaises bénéficient du dynamisme qui est impulsé par la présence chinoise?
Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en sous-traitance. Mais quand, par exemple, vous avez le CFAO, si je demande à Thomas Borrell, CFAO, il va me dire c'est la compagnie française de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est passé aux mains des Japonais. C'est Toyota.
Mais le siège est toujours à Paris.
Qui sait que c'est Toyota? Qui sait ça? Et qui sait qu'ils sont en train de remplacer?
La CFAO aujourd'hui est en train d'ouvrir des marchés pour Carrefour en Afrique de l'Ouest.
Ils sont en train de remplacer.
La CFAO continue de travailler avec les entreprises françaises.
Mais c'est une entreprise japonaise.
Non
mais moi je veux bien si
avec
vous,
une prise de contrôle du
bien
capital
quand on, je comprends bien que la France-Afrique pour vous c'est très important, je dis pas que ça n'existe pas, mais moi ce que je dis simplement, sur une longue période vous aviez une France-Afrique d'État 60-90 et maintenant vous avez une France-Afrique de réseau privé. Si vous ne comprenez pas cette stratégie historique, il y a un problème
mais
dans la compréhension.
Lisez justement Thomas La Famille Borrell. Recomposée, parce que c'est justement ce que ça explique, la manière dont finalement les réseaux France-Africains au niveau privé se sont parfaitement connectés sur les dynamiques de la globalisation, parce que mondialisation, on devrait plutôt parler de globalisation. Là-dessus, il n'y a pas de contradiction majeure. Et si on parle de la CFAO, qui a été effectivement, qui était le bijou colonial français créé à la fin du 19e siècle, avec une prise de contrôle par des intérêts japonais en 2012, on voit que la CFAO a toujours son siège à Paris, qu'elle continue en ce moment avec la branche retail, qui essaye d'ouvrir des supermarchés pour Carrefour en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, et que donc la CFAO n'est pas soudainement contraire aux intérêts économiques français. Donc il y a une complémentarité là-dessus dont peuvent très bien s'accommoder les investisseurs français. Et là-dessus, c'est pour ça, quand on regardait, il y avait en 2013, il y avait le rapport de Védrine Saint-Sou, qui tirait déjà la sonnette d'alarme, diminution de moitié des parts de marché, etc. Mais le même rapport disait que entre 2000 et 2010, il y avait un doublement des exportations françaises vers l'Afrique subsaharienne. Et il faut voir qu'on a un marché qui est en pleine expansion, avec des taux de croissance qui font pâlir les dirigeants français qui ne jurent que pas, enfin européens qui ne jurent que par la croissance. Et là-dessus, ils saisissent des opportunités. Et puis aussi, quand on parle de parts de marché ou d'exportation vers la Chine, il faut se poser la question des conséquences de toutes les délocalisations industrielles qu'on a eu dans nos propres économies en
les
faisant de la Chine.
Les matières premières partent en Chine parce qu'elles sont transformées en Chine.
Elles sont transformées là-bas ou dans d'autres pays qui sont devenus les ateliers du monde avant de revenir sous forme de produits manufacturés dans nos économies. Donc là-dessus, ces chiffres-là peuvent être particulièrement trompeurs.
Vous parlez d'un marché en expansion. Je voudrais tout de même vous faire entendre l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz, qui a bien saisi l'aubaine que peut représenter le continent africain. On l'écoute.
Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. Le marché africain, c'est une population qui va passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards d'individus d'ici à 2050. Il faut leur apporter de l'emploi. Vous savez, l'emploi là-bas, et j'ai été 7 fois en Afrique avec des chefs d'entreprise français, l'Europe et la France plus particulièrement a une position particulière par rapport à ce développement africain de leur économie. Il faut créer de l'emploi en Afrique, des jobs locaux. Et ça, pour ça, c'est les entreprises qui peuvent faire ça, personne d'autre. Je crois que le continent africain, la France devrait s'en emparer, devrait aider encore plus, et il devrait y avoir une sorte de plan Marshall européen pour aider tous nos amis africains à créer des emplois, des PME, des TPE, des ETI, grandir en Afrique.
Voilà un extrait d'une interview de France 24 diffusée en mai dernier. Ce qu'on entend bien, c'est que l'émergence d'une société de consommation en Afrique, c'est quelque chose qui attise les convoitises aujourd'hui, Antoine Gazer.
Absolument, mais encore une fois, là, je connais trop bien, je veux dire, même les rapports, tous les rapports finalement de survie abondent, et les notes de bas de page, c'est la lettre du continent que j'ai été rédacteur en chef pendant 30-35 ans. Donc, je veux dire, la réalité, c'est, il faut voir ça sur la longue durée. Et sur la longue durée, vous aviez la semaine dernière une mission française en Angola, ils ont eu du mal à remplir l'avion parce que il y a de moins en moins de boîtes françaises. Le problème de la France en Afrique comme ailleurs dans le monde, ce sont les grands groupes. mais il n'y avait pas de... Ils ont cherché des PME, ils n'ont pas trouvé des PME. Encore une fois, c'est des chiffres. L'Allemagne est passée devant la France comme premier partenaire économique de l'Afrique.
Et alors, comment l'expliquer, justement?
Ben parce que eux, ils travaillent, comme disait, je sais plus si c'était Chirac ou Sarko ou Hollande, ils disaient, vous ne travaillez pas en meute. C'est-à-dire, chacun travaille dans son petit domaine.
C'est Pierre Gattaz qui parlait de chasser en meute en avril 2016.
Mais oui, il y a toujours ce leurre en pensant que, voilà, que la France est aimée en Afrique. Maintenant, on voit bien que c'est du pipeau. On voit bien que toutes les diasporas africaines sont très souvent des gens qui sont en exil, des gens qui sont en asile politique. C'est les pro-Bagbo en Côte d'Ivoire, c'est les anti-Biya des Camerounais, c'est les anciens des Issouba. Donc, il y a une population africaine ou français d'origine africaine en France qui est bien évidemment, qui critique la France de continuer à soutenir les autocrates. Et très franchement, au niveau du business français, pour moi, il y a eu toute une période où ce business français en Afrique s'est endormi, était un peu paresseux parce qu'il travaillait qu'une façon politique. Et donc, il y a toujours une France-Afrique de réseaux privés, des gens, les intermédiaires, énormément de hauts fonctionnaires français qui sont passés au service même de chefs d'État africains dans des réseaux d'influence. Mmh. Et encore une fois, on parle de la même chose, mais moi, je vois ça sur une longue période, une longue durée. Et pour moi, c'est plus du tout la France-Afrique de la guerre froide.
Ça pose en tout cas des questions en termes de nouvelles pratiques, justement, et peut-être de nouveaux profils d'entreprises qui s'implanteraient en Afrique.
Non, mais effectivement, juste pour rebondir sur votre dernière phrase, Antoine Glaser, ce n'est plus la France-Afrique de la guerre froide. Ce n'est plus le faux-cartisme. Là-dessus, on est complètement d'accord. Par contre, on continue de parler de France-Afrique. Comme je l'ai dit en introduction de l'émission, on est sur quelque chose en perpétuelle adaptation. C'était le cas dans les années 50 et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, on a des intérêts privés qui continuent de se positionner. La lettre du continent continue de documenter cela, mais on diverge effectivement sur l'analyse.
Mais est-ce qu'on constate un changement de pratique? Est-ce que ces entreprises aujourd'hui ont des profils un petit peu différents? Est-ce que justement, il y a de plus en plus de petites et moyennes entreprises qui arrivent à investir sur le continent africain?
À ma connaissance, non, et j'ai pas les chiffres précisément là-dessus. Effectivement, nous, on s'intéresse plutôt, de toute manière, au comportement des grands groupes qui vont avoir un effet structurant sur l'économie et qui vont avoir tendance à s'ingérer de manière très directe au niveau des politiques mises en œuvre dans ces États-là. Parce que là, on parle beaucoup d'économie, mais dans la France-Afrique, il y a aussi tout le soutien à des régimes en place, les mécanismes monétaires dont il a été question hier, les mécanismes militaires dont l'actualité nous a donné un exemple récent au Tchad. Donc là-dessus, nous, on s'intéresse aux grands groupes économiques. Le changement de pratique pour l'instant n'est pas évident, à part que effectivement, ils font face à une concurrence croissante avec laquelle ils peuvent nouer des opportunités. Sur cette concurrence, il faut quand même juste rappeler qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu prétentieux à chercher pour un petit pays comme la France à rivaliser avec un pays immense comme la Chine, et qu'en termes économiques, on ne joue pas dans la même catégorie.
Non, mais cela peut passer par de la coopération.
Oui, non, mais là-dessus, il faut toujours remettre ça, parce que dans le discours qu'on entend beaucoup dans le milieu, notamment entrepreneurial français, de dire on perd, ou dans le milieu politique français, on est en train de perdre des parts de marché, on perd notre place en Afrique, c'est un peu notre place, c'est notre Afrique, et il y a quelque chose qui est tout droit issu de notre imaginaire collectif, notre imaginaire colonial, qui est que on se devrait d'être présent. Là-dessus, il faut aussi s'interroger. Si le sens de l'histoire, c'est qu'il y ait de moins en moins d'entreprises françaises en Afrique, ça peut être une bonne nouvelle, et ça peut être une bonne nouvelle aussi pour les citoyens français, puisque quand Areva, Bolloré, Total se renforcent considérablement en Afrique, ça a aussi un impact politique en France directement.
Ça pose aussi la question du précaré, effectivement, des entreprises françaises. Est-ce qu'elles essayent justement de sortir de ce précaré? On a vu que Emmanuel Macron avait prévu de se rendre le mois prochain en Éthiopie et au Kenya. Est-ce que c'est le signe qu'aujourd'hui Paris cherche à étendre sa diplomatie économique à l'Afrique anglophone?
Ils essayent d'accompagner, mais simplement...
Mais pour l'instant, il y a très peu d'entreprises françaises en Afrique anglophone.
Il y a très peu d'entreprises. C'est pour ça qu'on est toujours en train de parler des mêmes, de la BBC, Bolloré, Bouygues, Castel. Parce qu'encore une fois, il y a très peu d'entreprises. Et puis, moi, je sais qu'il y a eu des concurrences extrêmement... Alors là, par contre, politiquement, ça veut dire des hommes d'affaires du Nigeria, comme Dangote ou autres, qui, eux, en avaient ras-le-bol, parce qu'ils voulaient pas des interventions politiques de l'Élysée auprès des chefs d'État africains, parce qu'eux aussi, ils veulent vivre. Les hommes d'affaires, il y a des milliardaires milliardaires maintenant au Nigeria quand ils voulaient ouvrir une cimenterie ailleurs. Donc là, on parle des boîtes françaises, mais les boîtes françaises, elles sont aussi en concurrence. Et moi, je pense que Areva, pendant des années, maintenant Rano, qui a lutté pour pas qu'il y ait les Chinois au Niger, eh ben, ils vont finir par vendre leur mine d'uranium. Ils ont lutté pendant quasiment un demi-siècle. Pour pas qu'il y ait les Chinois, et maintenant c'est les Chinois, parce qu'il y a une faiblesse réelle. Mais où je suis d'accord avec Thomas Borrell, c'est que la France reste la France et ne voit pas que sa position dans le monde est évidemment réduite par rapport à une Afrique totalement mondialisée.
Un mot très très court sur le fait que la France est de moins en moins aimée et sur le fait que les économies qui finalement il y a plus à gagner dans les marchés anglophones aujourd'hui en Afrique, mais c'est aussi le résultat d'une histoire et là-dessus il faut tirer les conséquences de notamment de la politique française en Afrique dans ces pays-là. Si ces marchés aujourd'hui, si ces économies sont complètement exsangues, c'est le résultat aussi d'une politique française pendant des décennies. Et si la France est aujourd'hui de plus en plus détestée, c'est aussi parce qu'elle a toujours était du côté des régimes qui opprimaient leur population plutôt que du côté de la démocratie.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez aujourd'hui une grande nouvelle à nous annoncer. L'autorité bancaire européenne a un nouveau président.
Mais oui, sonnez trompettes et tambours, la place est prise. L'autorité européenne a un nouveau dirigeant. Et pas n'importe lequel, c'est l'Espagnol José Manuel Campa qui s'est vu offrir la présidence de l'organisme en charge de la régulation bancaire en Europe.
Une nomination qui n'a pourtant pas beaucoup fait parler d'elle.
Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout au plus, quelques ONG telles que Finance Watch, spécialisées dans la régulation du secteur financier se sont étonnés d'une telle décision. Il faut dire que l'impétrant au poste de grand régulateur des banques européennes est lui-même l'imminent représentant d'une banque européenne. José Manuel Campa n'est autre que le responsable mondial des affaires réglementaires du groupe bancaire espagnol Santander. Derrière cette appellation un peu obscure, il faut entendre en réalité lobbyiste en chef de la banque ibérique auprès d'organismes tels que l'autorité bancaire européenne justement. Comme l'explique Finance Watch, il est donc payé pour changer les règles afin de favoriser les grandes banques comme Santander ou au moins vérifier que ces règles ne les gênent pas trop. Et d'ici peu, il va être en charge de superviser ces mêmes règles. Une position pour le moins problématique donc.
D'autant que l'autorité bancaire européenne a acquis un rôle particulièrement important depuis la crise de 2008.
Mais oui, comme l'explique Martine Orange dans Mediapart, l'institution est chargée de contrôler et de réguler le système bancaire européen. Elle mène par exemple les tests de résistance, les fameux stress tests sur l'ensemble des banques de la zone. Elle est également en charge d'élaborer avec la BCE et le comité de Bâle les règles encadrant l'activité des banques, obligations de détenir une certaine quantité de fonds propres et autres garde-fous, aussi maigres soient-ils, censés protéger la stabilité du système financier. Autant de règles que les banques se sont échinées à combattre et à détricoter à l'aide d'un inlassable lobbying auprès des institutions européennes. La logique est toujours la même, ces règles de bonne gestion brideraient leur capacité de développement et de croissance.
Une pression qui s'est encore accentuée avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Oui, car le président américain s'est donné pour mission de détruire méthodiquement de son côté de l'Atlantique toutes les régulations mises en place au lendemain de la crise financière de 2008. Les banques européennes se sont donc insurgées face à cet avantage déloyal, réclamant d'obtenir le même traitement en matière de régulation, ou plutôt de dérégulation. Elles ont donc redoublé leur travail d'influence et de pression sur les institutions européennes. Le cas de la Banque Centrale Européenne est particulièrement marquant à cet égard. Pour éclairer ses décisions, l'institution de Francfort a choisi d'inviter un certain nombre de représentants dits de la société civile à ses réunions. En réalité, de société civile, il n'est point question. Sur les 517 membres siégeant dans les différents comités de la banque, 508 sont issus du secteur financier privé. 7 autres représentent des grands groupes tels que Total ou Siemens, les deux derniers postes ayant échu à des associations de consommateurs. La prise de l'autorité bancaire européenne par José Manuel Campa est donc une manifestation supplémentaire de la capture des organismes de régulation par les intérêts financiers.
Une pratique d'aller-retour entre les institutions européennes qui n'est pourtant pas nouvelle.
Non, c'est même devenu le sport favori des hauts responsables européens. On se rappelle de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, parti à la fin de son mandat vendre ses services à la très puissante banque d'affaires Goldman Sachs. Goldman Sachs, où travaillait également Mario Draghi, avant de prendre lui-même la tête de la Banque Centrale Européenne. Un rapport de l'ONG Transparency International nous apprend ainsi que plus de 50% des anciens commissaires européens sont devenus lobbyistes. Un mélange des genres qui explique largement la défiance et le soupçon que nourrissent aujourd'hui les citoyens à l'encontre d'institutions dont ils ne sont plus vraiment certains qu'elles recherchent l'intérêt commun.
Thank you. quitte avec le musicien éthiopien Mulatu Astaké. Merci beaucoup Antoine Glaser et Thomas Borel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Antoine Glaser, Arrogant comme un Français en Afrique, publié chez Fayard. Demain, on parlera de l'héritage colonial dans les quartiers populaires. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.